C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce matin, on va continuer notre étude dans la vie de David, un cœur qui bat pour Dieu. Et ce matin, c'est un sujet qui est à la fois sombre et à la fois réjouissant. Donc, on arrive au milieu de 2 Samuel. Et ce matin, on va parler de quelque chose de désastreux qui se passe dans la vie de David. Puis il y avait des conditions propices à ça. Qui était là dans la verglas autour de l'an 2000, 2001, je pense? 98? OK. 98? OK. Mais... En tout cas, ça ressemblait à ça. On avait des images comme ça, le verglas qui brisait les lignes électriques, qui détruisait les arbres, les maisons, les autos, les voitures, puis toute la mobilisation après pour nettoyer, c'était gros, hein? C'était vraiment impressionnant. Il y avait des conditions météorologiques propices à ça, n'est-ce pas? Et puis aussi, dans ce qu'on va voir ce matin, il y avait des conditions propices à ce qui est arrivé. J'aimerais vous demander de tourner avec moi dans 2 Samuel chapitre 11. On va lire 2 Samuel 11. Ce chapitre se situe vraiment au centre du livre de 2 Samuel. Puis tout ce qui se passe avant, c'est succès, joie, victoire. Et tout ce qui se passe après, c'est tristesse, défaite. Conséquences. Et le chapitre se situe en plein milieu, comme si ce chapitre-là faisait la division des deux parties du livre. Lisons. 2 Samuel, chapitre 11, je suis dans la Bible du Sommeur. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Éliam, épouse d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis, elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoyait dire à David, « J'attends un enfant. » Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri, le Hittite. Joab donna l'ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée, du déroulement des opérations. Puis David lui dit, « Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. » Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On va dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demandait, « Voyons, tu reviens après une longue absence. Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? » Uri le répondit, « Le coffre sacré, l'arche de l'Alliance, pardon, Israël et Juda, loge sous des tentes, mon général Joab, ses officiers couchent en rase campagne, et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. » David lui dit, « Reste encore ici aujourd'hui, demain je te laisserai repartir. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui, il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri allait quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait, « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait gardé par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hittite était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille. Puis il dit au messager chargé du rapport, « Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande, « Pourquoi vous êtes-vous tellement approché de David lors de ce combat? Ne saviez-vous pas qu'on tirait des flèches du haut des remparts? Vous rappelez-vous qui a tué Abimelech, fils de Yerubéchet, à Tébets? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart de sorte qu'il en meure? Alors pourquoi vous êtes-vous tant approché du rempart? » Alors, tu répondras, ton serviteur Uri le Hittite est aussi parmi les victimes. Le messager partit et alla rapporter à David tout ce que Joab lui avait chargé de lui dire. Il dit à David, « Les défenseurs de la ville ont d'abord eu l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie jusque dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la rempart et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur Uri le Hittite. » David dit au messager, « Tu diras à Joab, ne prends pas cet incident tragique à cœur. À la guerre, il y a toujours des morts, tantôt ici, tantôt là. Poursuis ton attaque contre la ville et détruis-la. Encourage-le ainsi. » Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David envoya chercher, installa dans sa maison, elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Prions. Ce matin, Seigneur, nous courbons encore devant toi pour reconnaître qui tu es, le Dieu souverain, le Dieu de gloire, le Dieu éternel. Toi, tu es Dieu. Nous sommes des êtres humains. Toi, tu as créé, nous sommes des créatures. Père, on te demande de tourner ta face vers nous ce matin, de nous éclairer. Fais briller sur nous ta face. On a besoin, Seigneur, d'entendre ta voix ce matin. On repousse toute autre voix à ton nom, Seigneur Jésus. Viens, Saint-Esprit, prendre le contrôle de cette rencontre, de ma bouche, de mes pensées, pour la gloire de Jésus. Amen. C'est un passage vraiment triste, vraiment troublant, vous ne trouvez pas? C'est un passage que je souhaiterais que ça ne soit pas là dans la Bible, mais c'est là. C'est un événement, des événements dans la vie de David que on dirait, ben, ça n'a pas sa place, ça détonne. C'est complètement contradictoire à tout ce qu'on a vu avant. Ça fait 20 ou 21 sermons qu'on voit sur la vie de David, puis c'est toujours merveilleux, c'est toujours glorieux, c'est toujours inspirant. Et là, boum! Une bombe tombe au milieu de la vie de David, puis tout éclate. David, jusqu'ici, a connu du succès militaire, spirituel, familial. Vous vous rappelez qu'il a rapatrié l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, il a rétabli l'adoration nationale de Yahvé, il a élaboré le système des Lévites chantes et l'ordre des familles des prêtres qui servent devant l'Arche de l'Éternel. Il a une famille de plus en plus nombreuse, il est de plus en plus prospère, ses fils servent dans son gouvernement, il est aimé de tout son peuple parce que c'est un homme généreux, accueillant, inspirant. Il a été jusqu'à adopter dans sa famille Mephibosheth, le fils de Saül, son grand ennemi, et qui mange à sa table tous les jours, Mephibosheth. Et pour couronner le tout, on a vu il y a une semaine que Dieu a conclu une alliance éternelle avec lui pour l'établir une dynastie pour lui qui durerait pour toujours, qui inclut en finalité le Seigneur Jésus-Christ comme Messie. David, stratège et leader militaire hors pair, a vaincu 6 nations, Moabite, Édomite, Amalécite, Syriens, Philistins, Ammonites alentour. Ces 6 nations alentour, dont la plus coriace, les Philistins. Dieu l'a soutenu, protégé, béni à chaque tournant de sa vie. Voilà qu'il ne reste qu'un petit conflit à régler avec les Ammonites, qui sont réfugiés dans leur ville capitale, Rabat, comme dernier recours. Mais David envoie l'armée avec Joab, mais lui reste chez lui. Il ne se présente pas à la tête du peuple. Il envoie Joab et les vaillants hommes pour assiéger Rabat. On le retrouve où? Dans son palais, en train de faire une sieste et de se promener sur le toit de son palais. Et là, ouh, qu'est-ce qu'il voit? Une femme nue en train de se baigner. Mais quelle femme! David ne s'en détourne pas les yeux. Il se laisse aller à son désir. Il s'informe de son identité. Qui est-elle? Je la veux. On va revenir sur ça, c'est qui elle, là, plus tard. Mais on parle des conditions propices à la chute, comme les conditions propices au verglas. Quand le verglas arrive, là, c'est propice à la chute. L'an passé, je sors de chez nous, puis prends une marche, chouing, sur le dos. Le sac revole, le café revole. Heureusement, j'ai rien eu, mais c'était propice à la chute. Il y a des conditions ici dans la vie de David qui sont propices à la chute. C'est quoi la première condition? C'est le succès. Le succès. David a connu un succès incroyable, une série de succès militaires, social, religieux. Et le succès, mes amis, comporte un élément de danger. Le succès, en fait, est beaucoup plus dangereux que l'échec. Oui, l'échec comporte aussi ses dangers. On peut se décourager. On peut se sentir abandonné de Dieu. On peut carrément penser que Dieu nous a oubliés et se révolter contre Dieu à cause d'un échec. Mais souvent, l'échec va finalement nous conduire à chercher Dieu, à rechercher la consolation de Dieu, pas vrai? À rechercher un sens à notre vie. Mais le succès, c'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus dangereux. Parce que dans le succès et la prospérité, le danger, c'est quoi? Vous le savez, l'orgueil. Cette notion qui nous habite si facilement, qui prétend qu'on est arrivé, on est bon, on est capable et on est finalement indépendant de Dieu. On est capable par nous-mêmes et on s'éloigne de la présence de Dieu. L'orgueil précède la chute, hein? La Bible nous enseigne que celui qui se pense debout prenne garde qu'il ne tombe. C'est lorsqu'on se sent fort, capable, indépendant, la tendance naturelle est alors de laisser un peu Dieu de côté et aussi laisser, et voilà une deuxième condition propice à la chute, laisser de côté la discipline. C'est alors que l'indiscipline s'installe. On se permet des petits plaisirs. Et tranquillement, on donne libre cours à nos désirs auxquels on cède de plus en plus facilement. La discipline fait partie intégrante de la vie d'un disciple. Les deux mots ont la même racine. Disciple, discipline. Si tu veux être un disciple, il faut que tu renonces à toi-même, tu prennes ta croix et tu... suivre Jésus, ça implique une notion de discipline. C'est quoi la discipline? C'est de dire non à tes désirs. Pour dire oui, pas juste dire non pour prouver que tu es capable de dire non. Dire non pour dire oui à Jésus, pour suivre Jésus, ça fait partie intégrante. Jésus a dit quelque chose qu'on n'entend pas souvent citer dans nos églises. Voici la phrase sommaire en passant. Ce récit révèle les conditions propices à la chute et la dynamique du péché auquel l'Évangile seul est la solution. Et voici ce qu'on va voir, les trois points, la condition propice, c'est ce qu'on est en train de regarder. Les conditions propices à la chute, la dynamique du péché et le moralisme versus l'Évangile. Donc, on a vu le succès, on est dans l'indiscipline. Et voici ce que Jésus dit, qu'on n'entend pas souvent, mais il le dit quand même. « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger et de trop boire. » Quoi? Quoi? Jésus, il est en train de dire, ton esprit, là, il peut s'alourdir, il peut s'endormir à force de trop bien manger et trop boire. Quoi? Et à trop vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Il parlait de son retour, du retour du Seigneur puis le jugement des nations. C'est Luc 21, 34. C'est quelque chose qui me trouble, ça. Je ne sais pas si ça vous trouble, là, mais moi, ça me secoue. Puis je pense que ça devrait nous secouer aussi, là. Parce que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il y a un lien direct entre ce que tu te permets physiquement et ton état spirituel. Ben oui, Dieu nous a créé corps, âme et esprit, ou pour certains, corps et esprit. Mais bon, puis ces choses-là sont indissociables. On n'est pas des dualistes, en passant, j'ouvre une parenthèse. Dualiste, ça veut dire quoi? C'est que ton esprit ou ton âme habite un corps. Non, ça, ce n'est pas la vue de la Bible. C'est nous sommes un corps, un esprit puis un âme, ou un corps, un esprit. OK? C'est pour ça que la mort arrive lorsque le corps et l'esprit sont quoi? Séparés. Puis qu'est-ce qui va arriver à la résurrection? On va avoir un nouveau corps. Ce n'est pas juste l'esprit, un nouveau corps. Fait que les deux sont indissociables. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il y a un lien direct entre ce que toi et moi, on se permet, là, puis si on s'en permet un peu trop, là, on commence à aller vers l'indiscipline, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est des conditions propices à la chute, comme des conditions propices au verglas. C'est Météo Média, là, des fois, ils font un avertissement, là. Conditions propices au verglas, faites attention, là. Ding, ding, ding. Bien, le succès et l'indiscipline. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que David, qui avait connu beaucoup de problèmes et d'épreuves dans sa vie, et toute la première partie de sa vie, là, les premiers 30 ans, là, à peu près, il y a eu des problèmes. Il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. Mais tout ça, dans tout ça, il est resté fidèle, proche à Dieu pendant toute cette période-là. Là, il connut succès, prospérité. Et qu'est-ce qui se passe? Il semble se relâcher physiquement. Il ne s'en va pas à l'armée avec les autres, là. Il est où? Il est couché dans son lit. Il est chez eux. Il se la coule douce, comme on dit. Est-ce qu'il est resté au lit toute la journée? Ou simplement fait une sieste, comme dit la sommeur, on ne sait pas. Mais bon, bref. David avait pris aussi plusieurs femmes, à part les 6 qu'il avait déjà à Hébron. Bon, je peux vous les nommer, mais je ne prendrai pas le temps. Mais il y en avait 6. Et puis, arrivé à Jérusalem, il y en a pris d'autres encore. Mais cela avait été précisément interdit par Dieu dans Deutéronome 17:17. Il ne prendra pas beaucoup de femmes. C'était pas la volonté de Dieu que David se dote de plus d'un harem, si on veut, là. Il y a une espèce de loi de la nature qui fait que plus tu en as, plus tu en veux. Pas vrai? Les collectionneurs d'auto, là, ils sont pas satisfaits d'avoir juste une auto de collection, là. Quand ils en ont un, ils en veulent un autre, puis un autre, puis un autre. Il y en a qui se ramassent avec des centaines de voitures de collection. L'indiscipline, se permettre plein de choses, ça nourrit quelque chose. Ça nourrit, plus tu en as, plus tu en veux. Paul est dit dans 1 Corinthiens 9, 27 qu'il s'imposait une discipline rigoureuse. Il dit, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Mes amis, il y a un lien entre le corps et l'âme. Puis peut-être que ça serait bénéfique que tu te mets à l'exercice un peu, là. Que tu disciplines ton corps, ton manger un petit peu, là. Ça aiderait. Ça aiderait. Paul, il dit, s'impose ça parce qu'il a peur de tomber. Il a peur de tomber, fait qu'il traite son corps avec une discipline. Il a peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Puis il donne l'exemple d'un athlète qui se discipline pour gagner une course. C'est salutaire pour nous de discipliner nos corps au niveau du manger, au niveau de l'exercice. Ce n'est pas une religion, c'est simplement quelque chose qui aide. C'est quelque chose qui aide. C'est comme se mettre des souliers à crampons quand il y a du verglas. Donc Jésus dit, prenez garde, parce qu'il y a des conditions propices à la chute. Alors David, la situation qui est là, qui est tellement laide, qui est tellement désolante, c'est pas arrivé comme ça dans un vide. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas arrivé dans un vide, là. Il y avait des conditions météorologiques propices. Il s'est relâché, il s'est adonné des plaisirs, son esprit s'est alourdi, son esprit n'était plus dans un état d'éveil spirituel. Hein, vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux disciples là, dans le jardin? Là? Priez, éveillez, parce que hein, l'esprit veut, mais la chair est faible. Son esprit n'a pas veillé. Là. Il n'était pas en éveil spirituellement. Il s'est relâché. Puis ça me fait penser aussi, des fois, à des situations qui peuvent être aussi propices à ça, des vacances. Pars en voyage. Puis là, tu prends des vacances, pas juste du travail, mais tu prends des vacances de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Pris des vacances de Dieu. M'en suis permis pas mal. Et j'ai appris, je ne peux plus prendre de vacances de Dieu. Je vais prendre des vacances avec Dieu. La retraite, bien beau la retraite, là. Ça sert à quoi la retraite? On va s'adonner à tous nos plaisirs, à toutes nos passions, à tout ce qu'on veut de passe-temps, on va se livrer cœur joie. C'est dangereux. C'est dangereux la retraite. C'est pas une retraite pour t'adonner à tes passions. Fait que ces deux choses-là me viennent à l'esprit comme exemple. Mais là, j'entends certains dire, « Brian, pauvre David, c'était pas de sa faute quand même, là. Il n'a pas demandé qu'il y ait une belle femme devant lui, tout nu, qui se baignait, là. Hein? C'était pas de sa faute, là, pauvre petit. Il n'a pas demandé pour ça. » Je rigole un peu, hein, mais l'être humain est capable de penser de même. Pas de ma faute. Pas de ma faute. Il se voit comme un spectateur ou même une victime des circonstances. Ben là, je suis sorti, puis gars, était là. C'est? Ouais. C'est ça. Ou encore, une victime du diable. Il y a une expression en anglais, là, qui est très célèbre. « The devil made me do it ». Le diable m'a forcé la main. « The devil made me do it ». C'est très célèbre. OK? Et ça m'amène au prochain point. La dynamique du péché. Qu'en dit la Bible? Au temps de Jacques, le demi-frère de Jésus, il semble que les gens avaient plutôt tendance dans leur culture, dans le temps, à renvoyer la balle à Dieu. Ben oui, Dieu est souverain. Fait que c'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a placé là, regarde. C'est Dieu qui est souverain, puis il l'a placé là. Fait qu'il avait tendance à blâmer Dieu. Ça paraît un petit peu plus pieux que blâmer le diable. Peut-être. Mais qu'est-ce que Jacques dit? Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Jacques 1,13. « Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Hein? Mauvaise réponse. Fait que c'est pas le diable. Hein? C'est pas Dieu. Hein? Aha. Alors, c'est qui? Ah, c'est toi. OK, c'est toi, c'est pas moi. Mais chacun, dit Jacques, est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, dans la version du Semeur, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a poursuivi la mort. Donc, la dynamique du péché s'amorce par quoi? Un désir intérieur. L'image qui me vient à la tête, c'est, pour poursuivre, il dit, « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent, qui nous séduisent, puis le mauvais désir qu'on souhaite donne naissance au péché, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » À quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser à un leurre, un appât pour les poissons. Hein? Tu es des pêcheurs dans la gang ici ce matin? Oui, hein? Fait que ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que le désir, c'est ça, c'est comme qu'il y a quelque chose qui passe, là. Et à l'heure, c'est souvent coloré, brillant, c'est attirant pour le poisson. Si le poisson a faim, hein? Moi, ça n'arrive pas souvent quand je vais à pêche. J'attrape pas beaucoup de poissons. Il y en a qui sont témoins de ça ici ce matin. Si le poisson a faim, il va être attiré par le leurre. Hein? S'il a faim, s'il a le désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas faim, puis passe à côté. J'en connais quelque chose. Mais s'il a le désir, alors il se laisse attirer par l'appât. Et finalement, il mord à l'appât. Et l'action de mordre, là, il est pris. Et qu'est-ce qui s'ensuit souvent? C'est la mort. Donc, il finit dans le poêle. Dans le poêlon. Donc, la dynamique du péché, ça commence par un désir intérieur. Le problème, c'est que les désirs du cœur humain sont un puits sans fond. La Bible dit, l'œil n'est jamais satisfait de voir, l'oreille n'est jamais satisfait d'entendre. Les désirs du cœur humain sont insatiables, sont comme un puits sans fond. Lorsqu'on est comblé par la présence glorieuse de Dieu, c'est comme un banquet continuel, nous dit la Bible. Un banquet continuel. C'est à volonté. Et ça te satisfait. Parce que Dieu, étant éternel, étant infini, est le seul qui peut combler ce vide-là. Mais si ce vide-là n'est pas comblé, si tu laisses ton cœur vide, ton cœur va devenir avide. Un cœur vide devient avide. Veut désirer d'autres choses, sa soif de d'autres choses. La soif, quelle soif tu veux nourrir ce matin? Veux-tu nourrir la soif de Dieu? As-tu soif de Dieu ce matin? As-tu soif de connaître Dieu? Ou est-ce que tu es pris avec tes propres soifs qui ne sont jamais satisfaits, puis ça t'en prend toujours plus et plus et plus? Seul un être infini peut combler ce vide, une source intarissable. Hein? Une source intarissable est la seule réponse à un puits sans fond. Un autre principe de la dynamique du péché, on a vu que ça commence par un désir dans le cœur, mais un autre principe, c'est quoi? C'est qu'un péché amène souvent un autre. C'est ce qu'on constate ici dans la triste histoire de David, n'est-ce pas vrai? Il commet un adultère. Là, il dit, la femme, elle me dit qu'elle est enceinte. Malheureusement, pourquoi elle est tombée enceinte? Elle n'aurait pas pu, ça n'aurait pas pu passer juste free comme ça. Mais non, elle tombe enceinte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Uri. Uri, comment ça va, mon vieux? Hey, viens souper avec moi. Puis il soupe, il dit, hey, bon, ben, j'espère que tu vas bien te reposer ce soir. Va chez vous, relax. Qu'est-ce qu'il fait, Uri? Il couche à la porte avec les gardiens. Hein? Là, on dit ça à David. Au palais. Premier plan, pas marché. Fait que là, il ramène encore. Puis il pousse à boire jusqu'à s'enivrer. C'est beau encore, hein? Ah ouais, il boit encore. Ah ouais. OK, ben, j'espère que tu vas bien dormir avec ta femme ce soir. Fait que l'adultère conduit au mensonge, hein? À la duplicité, conduit à des manigances, conduit à essayer de corrompre le caractère d'un serviteur fidèle. Uri, c'est un gars fidèle. Tu vois, sa fidélité là, est en contraste flagrante avec l'infidélité de David. C'est fou, là, le contraste. Ça fait mal. Parce que tu sais que David a été intègre, mais maintenant, il ne l'est plus intègre. Ça fait mal de voir ça. Il apprend que ça n'a pas marché non plus. Là, je sais ce que je vais faire. Il faut l'éliminer pour que personne sache que c'est moi le père de l'enfant. Parce que c'est juste Uri qui peut le dire que c'était pas lui, là. Fait qu'il faut éliminer Uri. Écrit un message à Joab et donne à qui pour transmettre? Donne à qui le message? À Uri. C'est son propre arrêt de mort qui transporte. Ouf! Joab, ben, Joab, c'est un gars pragmatique. C'est un gars qui fait ce qu'il faut faire. On ne sait jamais avec Joab si ça va être le bien ou le mal, mais chose certaine, il va agir selon ce qu'il pense qui va avancer sa cause. Fait qu'il le fait. Il le fait. Fait que là, les manigances et la corruption s'inversent dans le meurtre d'un homme fidèle. Et pas juste lui. Plusieurs autres aussi, là, des soldats fidèles, sont sacrifiés. Ils sont pas morts accidentellement. Là, David dit, ah, ben, regarde, dans la guerre, il y en a tantôt des morts, tantôt ici, tantôt là. C'est la guerre. Faites-en pas, Joab. Adultère, complot, meurtre. Comment Dieu, on l'a parlé un petit peu la semaine dernière, comment Dieu, en toute connaissance de cause, là, a pu appeler David un homme selon son cœur? Ça vous dérange pas un peu, là? Ça te dérange, hein? Oui, c'est dérangeant. Comment ça se fait, un homme selon son cœur? J'aimerais vous demander de faire preuve de patience là-dessus parce qu'on va revenir un petit peu dans les semaines à venir, OK? On va revenir là-dessus. Comment ça se fait? Mais pour l'instant, j'aimerais considérer avec vous un dernier point. C'est que c'est facile pour toi et moi de regarder David et d'en être scandalisé. Et puis c'est vrai, c'est scandaleux. C'est honteux. C'est inacceptable. D'autant plus que David, c'était un modèle. David, c'était un leader. David, c'était un géant spirituel. Mais Jésus, dans ses enseignements, nous trouble par ses paroles. Tantôt, il nous a troublés par une parole. Maintenant, il nous trouble avec une autre parole. Parce que qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter déjà dans son cœur, commet un adultère avec elle. Matthieu 5, 28. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. En parlant de Dieu, là. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Opalaï. Même si tu dis dans ton cœur, moi, j'ai jamais fait ce que David a fait, puis je ne ferai jamais une affaire de même, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que peut-être que tu n'as pas passé aux actes, mais dans ton cœur, et c'est le cœur au cœur que Dieu regarde, toi aussi, tu es coupable, moi aussi, je suis coupable. Alors là, c'est comme se regarder dans un miroir. La Bible dit qu'on lit la parole de Dieu, puis c'est comme se regarder dans un miroir. C'est pas beau, hein? C'est pas beau. Jésus est en train de nous montrer qu'en regardant David, nous nous regardons nous-mêmes. On n'a peut-être jamais fait ça, mais on a tous et chacun, écoutez bien, le potentiel. Et si tu n'as jamais fait de choses exactement pareilles, ben tu n'en as fait d'autres qui sont aussi coupables, et moi aussi. Un frère ou une sœur fait quelque chose de mal. Pourquoi on est surpris? C'est un pécheur. C'est un pécheur, pareil comme toi et moi. Le péché arrive, le péché survient parce que nous sommes pécheurs. Et non l'inverse, c'est-à-dire le fait que tu pèches te rend pécheur. Le péché survient parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes naturellement enclins à ça. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, j'aimerais vous parler du moralisme chrétien parce que, en fait, on peut avoir deux réactions face à David, je viens de vous le dire. On peut être horrifié, scandalisé. Et je ne suis pas en train de vous dire c'est correct, c'est scandaleux, c'est horrible. Mais on peut s'indigner. Est-ce que ça vous arrive de lire la Bible, de certains passages, surtout de l'Ancien Testament, puis d'être indigné, dire « Mais voyons donc, regarde ce qu'a fait David, ou regarde ce qu'a fait Abraham, ou regarde ce qu'a fait... » Ça vous arrive, ça, des fois? Il y a une sœur qui m'a dit ça la semaine passée, « Je lisais telle affaire, puis regarde, hein, ça me scandalise. » Ouais. Mais quand on se positionne comme ça, là, on est en train de prendre une position de moraliste. De moraliste. Le moralisme chrétien. Le moraliste, c'est la solution humaine au danger, au problème, à la dynamique du péché. OK? On a ce problème de péché. OK, d'accord, Brian, on est tous pareils. On est tous tentés d'aller vers le mal. Il faut trouver une solution. OK? On va trouver une solution. C'est quoi la solution humaine? C'est le moralisme. C'est-à-dire d'éviter le péché au plus possible et de faire tous les efforts pour ressembler aux exemples dans la Bible comme David avant sa chute, bien sûr. La solution, c'est d'essayer d'être une bonne personne, de travailler à être une meilleure personne, une personne intègre comme Joseph, un homme dévoué comme Daniel, une femme courageuse comme Esther. Toutes ces choses-là, là, c'est pour que tu essayes d'être comme ça, puis t'évites le péché. L'enjeu, c'est ça. Évite le péché, deviens une bonne personne. Ça, c'est la solution du moralisme. Et ça paraît bien. Ça paraît bien, mais ça focus sur le comportement. Il n'y a aucun changement intérieur du cœur qui se produit par là. Ça change rien du tout de l'intérieur. Ça focalise sur l'extérieur, sur le comportement. Mais l'Évangile est la solution divine à notre problème, chers amis. C'est là qu'on veut aller, dans l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ dit ceci. Tu es pécheur. On vient juste de le prouver. Tu n'arriveras jamais par toi-même de devenir une assez bonne personne pour entrer en ma présence. Je suis un Dieu trois fois saint. Tenter de le faire, c'est une folie et un danger mortel pour ton âme. De tenter de devenir une personne assez bonne. Jeudi, je jasais avec un monsieur qui vient travailler chez nous, puis je disais, « Tu penses-tu qu'il y a quelque chose après? » Il dit, « Oui. » J'ai dit, « Le ciel, l'enfer? »« Ouais, le ciel, ouais. » Puis j'ai dit, « Toi, tu vas où? » Ah, il dit, si je ne vais pas au ciel, il dit, une méchante gang qui n'iront pas non plus. Hein? On entend ça souvent. Hein? J'ai dit, mon cher ami, je ne dirai pas son nom. Il n'y a personne qui est assez bon pour aller au ciel. C'est comme on vous garoche 1000 personnes au beau milieu, garoche, on vous laisse tomber au milieu de l'océan Atlantique. 1000 personnes. Il y en a qui sont très forts là-dedans à la nage, il y en a qui ne sont pas du tout forts, puis coulent tout de suite. Le plus fort est réussi à nager 100 km. Mais y en a-t-il un qui va regagner la côte? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est un danger mortel d'essayer. Alors, l'Évangile, c'est il faut que tu reconnaisses ton état. Reconnais plutôt ton état. Arrête d'essayer. « Viens à moi pour recevoir le pardon de tes fautes. Je te donnerai une nouvelle vie. Je placerai ma vie en toi, le Saint-Esprit. Et si tu lui laisses le contrôle, c'est lui qui produira en toi les choses que tu vois dans la Bible. Parce que tu marches en dépendance de mon esprit et tu me ressembleras. » Donc la solution divine, c'est l'Évangile de la grâce. C'est la seule solution, mes amis. La seule. Ça focus sur le cœur et non le comportement. Et c'est de vivre par l'esprit et non essayer d'éviter le péché. Voici ce que Paul nous dit dans Galates 5. Ah ben, ici, ce que ça produit, oui. Je voulais voir le verset avant. J'en reviendrai. Non, non, OK, je ne l'ai pas marqué, excusez. Donc, qu'est-ce que Paul dit dans Galates 5, 15, 16? Il dit quelque chose de fondamental. Je sais que je l'ai déjà dit ici, mais il faut se le répéter parce qu'on est dur de comprendre. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK? Ça, c'est l'Évangile. C'est le contraire du moralisme. Le moralisme, c'est marche comme un bon petit chrétien, essaye de ne pas faire le mal pour devenir quelque chose, quelqu'un de bien, de droit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que plus tu combats tes désirs, plus les désirs sont là. Ça stimule les désirs même. Plus tu essaies de les combattre. L'enjeu, ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est marcher par l'esprit. OK, je l'avais là, excusez. Je l'avais à l'écran. Marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair de votre propre nature. Voyez-vous la différence? Donc, l'enjeu, c'est quoi? Marcher ou non par l'esprit. Marcher ou non par l'esprit, c'est ça l'enjeu. Et là, la bataille. Est-ce que tu laisses le contrôle à l'esprit de ta vie, à tous les jours, à tous les moments? Oui ou non? Si l'esprit est là et il a le contrôle, lui, il va te faire marcher dans les sentiers de Dieu. Tu vas faire le bien. Il n'y aura pas de place pour faire le mal parce que tu vas être en train de faire le bien. Je ne sais pas si vous me suivez, là. La différence est fondamentale. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre chair. Mais si tu essaies de marcher en repoussant les désirs de la chair, C'est pas de laisser le contrôle au Saint-Esprit. Tu essaies par tes forces de repousser les désirs de la chair. Mais si tu marches selon l'Esprit, c'est lui qui va remplir ton cœur des désirs propres, des désirs qui glorifient Dieu. Et tu vas un peu oublier les désirs de la chair parce que tu vas être focusé sur d'autres choses. Le moralisme, ça conduit à l'orgueil ou au découragement. Ceux qui pensent qu'ils réussissent à marcher comme Dieu leur demande de marcher, là, ben ça cause l'orgueil spirituel. Ceux qui pensent qu'ils ne réussissent pas, les deux ne réussissent pas là, en fin de compte, mais il y a ceux qui pensent qu'ils réussissent par leurs efforts à éviter le péché puis à marcher comme un bon petit chrétien, ben ça produit l'orgueil. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas capables, ça peut produire le découragement. Alors que l'Évangile, ça devrait produire l'humilité. Je sais que je ne suis pas capable. Je sais que je n'y arriverai pas. Je dois dépendre du Saint-Esprit. Je dois laisser le contrôle de ma vie au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Amen. Le moralisme va produire l'hypocrisie. Parce que, vu qu'il ne faut pas pécher, un bon chrétien, ça ne pêche pas, bien, on réussit à se convaincre, sais-tu, ça fait longtemps que je n'ai pas péché. Hein? Comme les pharisiens, hein? Jésus dit, vous paraissez bien de dehors, parce qu'il remplissait tous les critères de la loi, mais il dit en dedans, là, c'est comme sépulcre plein de putréfaction, d'ossements. Il dit, vous pouviez voir vos cœurs. L'Évangile produit la transparence. Regarde, on l'est tous pécheurs. T'as péché? OK. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça nous permet d'être transparents. Le moralisme produit la honte, le mépris de ceux qui ne marchent pas ou la honte quand je ne marche pas bien. Mais l'Évangile, c'est la liberté. La liberté, non pas de péché, mais la liberté de savoir que je suis aimé, je suis pardonné. À l'instant même que je reconnais à Dieu que j'ai péché, et même le pardon est déjà là, il faut juste me l'approprier. C'est la liberté. Et c'est l'accueil des autres aussi qui sont pécheurs. Vous savez, il y a des leaders chrétiens qui ont tombé. On connaît tous des exemples à la télé, peut-être dans notre entourage. Il y en a qui avouent, il y en a qui n'avouent pas. Il y en a qui sont faussement accusés, il y en a qui c'est vrai. Mais comment on les voit, ces gens-là? Qu'ils soient coupables ou non. Ah, s'il n'est pas coupable, je vais être fin avec. Et s'il est coupable, là, oublie ça. Ah oui? Ah oui? On va voir qu'est-ce que Dieu a fait avec David. Mais l'Évangile, ce n'est pas le moralisme chrétien. Et si tu as une réaction d'indignation puis de coupure avec quelqu'un qui pêche, qui est en autorité, c'est sûr que c'est désolant, c'est sûr que c'est scandaleux, c'est sûr que c'est triste. Mais si tu as une réaction d'indignation, mais voyons donc, regarde, c'est que tu n'as pas vraiment compris la grâce. J'ai pas vraiment compris c'est quoi la grâce. Ce n'est pas la liberté de pécher, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais l'Évangile, c'est que le péché n'est jamais une fin en soi. OK? Je répète. L'évangile de la grâce de Jésus-Christ, c'est que le péché n'est jamais une fin en soi. Il y a toujours une solution. Amen. Il y a toujours une solution. Fait que ça amène la liberté, ça amène la joie, ça amène l'accueil. Garde, t'as péché, on peut-tu en parler? Ou j'ai péché, on peut-tu en parler? Les pasteurs qui tentent de diriger le troupeau en donnant l'impression qu'ils ne pêchent jamais vont produire une église superficielle et hypocrite. Tous vont tenter de cacher leurs fautes et prétendre être des bons petits chrétiens. L'orgueil prendra racine et produira des conflits, mais souvent des conflits cachés, parce que tout le monde sait que les conflits, c'est mal. Fait qu'il ne faut pas avoir de conflits, mais il y aura des tensions parce que personne n'osera dire les vraies choses, mais feront semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, rien ne va plus. Les couples sembleront heureux le dimanche matin, mais vivront dans un état de divorce émotionnel et spirituel le reste de la semaine. Les gens qui luttent avec un péché se verront rejetés plutôt qu'aider. Voilà les résultats du moralisme chrétien. On l'a vécu ici. On l'a vécu ici, dans cette église. J'en faisais partie du problème. L'Évangile nous permet de reconnaître et d'avouer qu'on a péché parce qu'il a une solution. Il y a une solution. Et la solution est déjà payée d'avance. Jacques nous dit, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Avez-vous déjà vu une église, là, qui fait ça? À quoi ressemblerait l'église ici, là, si on était assez en sécurité, assez transparent pour pouvoir s'avouer les uns les autres nos fautes? Ah, pas nécessairement large à tout le monde, là. Avec un frère, une sœur de confiance. À quoi ressemblait l'Église si le leadership acceptait d'admettre ses fautes? En conclusion, frères et sœurs, parce qu'on va prendre le repas du Seigneur, l'Évangile est ici résumé par Paul dans Romains 5, 19, 20. Comme par la désobéissance d'un seul, en parlant d'Adam, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, parlant de Jésus, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est survenue, elle est intervenue pour que le péché prolifère. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que le péché soit évident. Et quelqu'un qui lutte contre le péché, ça va proliférer, comme on a dit. Mais là où le péché a proliféré, a abondé, la grâce a surabondé. J'ai une dernière question pour vous. Dernière question. J'essaie de le phraser d'une façon ouverte, là. Pour qui Jésus est-il mort? Pour les gens fins, les gens qui essayent, qui mènent une bonne vie, qui sont des bonnes personnes, morales. Non? Non. Jésus est mort pour les pécheurs. Est-ce que Jésus est mort pour David. Mais pour David, on vient de voir ce qu'il a fait, là. Jésus a accepté de mourir pour un gars comme ça, là? Non, ça se peut pas. Ça se peut pas, là. C'est pour dire que c'est difficile, hein? C'est difficile, là, d'accepter, là, que Jésus et accepter de mourir pour un gars qui vient de faire tout ça, là. Oui, c'est un affront à notre propre justice qui est faussée. Une grâce qui surabonde. Ouais, c'est incroyable. Et c'est ça qu'on va célébrer par le repas du Seigneur ce matin. Donc, je vais inviter Robert à venir. Puis, j'espère, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais j'espère que Dieu va parler à nos cœurs cette semaine sur la différence entre le moralisme chrétien et l'Évangile de grâce. Amen.
Un, deux, parfait. Un, deux, oui, ça marche. Donc,